Une vingtaine de policiers, dont des agents du RAID, sont intervenus hier pour retirer la banderole déployée par les militants. En fin de journée, ils ont reçu le soutien d'une centaine de manifestants réunis place des droits de l'homme, un rassemblement organisé en mémoire des manifestations de Sainte-Soline qui se sont tenues il y a un an, jour pour jour.
L'entreprise Yara, elle a été condamnée hier par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
2 ans après un accident survenu sur le site d'Ambès, l'usine de fabrication d'engrais, Yara écope de 50 000 euros d'amende pour blessures involontaires. Pour rappel, le 23 mars 2022, une fuite d'ammoniac sur un poste de chargement avait fait 14 blessés, dont 2 graves. Constitué partie civile, le syndicat CGT de l'usine a de son côté obtenu 2 800 euros de dommages et intérêts.
Et puis aujourd'hui, c'est une journée de grève et de manifestation. Alors de grève, je ne sais pas si on peut dire que les retraités font grève, en tout cas de manifestation des retraités. Il y a un rassemblement, il y avait un rassemblement ce matin à 10h30 place Péberlan. Et on en parlera peut-être tout à l'heure quand notre invité Stéphane Aubé, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Gironde, sera avec nous. Par contre, on va dire un mot de ce qui va se passer lundi prochain. Lundi prochain, ce sera le 1er avril et ce sera la fin de la trêve hivernale. Des centaines de personnes risquent d'être remises à la rue. Et la rue nuit gravement à la santé. C'est ce dont alerte notamment Médecins du Monde, qui organise une action demain, mercredi, place Péberlan, là aussi à 12h30. On en dit un mot avec toi, Rachid. Bonjour, Rachid.
Bonjour.
Tu es président de l'association La Piraterie, qui héberge des personnes à la rue et qui lutte contre le gaspillage alimentaire pour redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Alors chaque année, c'est un peu pareil. Durant l'hiver, la préfecture ouvre des places d'hébergement.
Oui, très peu. Cet hiver, du coup, il n'y a pas eu vraiment de plan grand froid, puisqu'il n'y a pas eu le grand froid attendu. Nous, ce qu'on revendique aussi, entre autres, et je parle aussi au nom de ceux qui sont derrière moi et d'autres associations, c'est de dire que on pourrait faire tout simplement un plan froid, parce que effectivement le plan grand froid qui avait été placé par l'abbé Pierre, qui à l'époque effectivement c'était des hivers rigoureux où on en tombait à moins 20 et donc voilà, on n'a plus ces hivers là. Le plan froid devrait être activé, c'est-à-dire que essayer de passer une nuit dehors déjà à 5 degrés, effectivement c'est plus les froids d'avant, mais essayer de passer entre 0 et 5 degrés avec vos enfants, votre tante, pour certains leurs chiens, etc. C'est pas facile, donc il faudrait en fait automatiquement en hiver passer au plan froid tout simplement et arrêter avec ce plan grand froid. Il faudrait faire moins 5 degrés pour l'activer continuel sur 3 jours, c'était ça la règle de base. Et voilà, c'était un petit message que je voulais passer aussi pour ça.
Alors la fin de la trêve hivernale, qu'est-ce qu'elle va changer? On avait l'habitude de dire que la fin de la trêve hivernale, ça voulait dire que les squats pouvaient être expulsés plus facilement.
Oui.
Or on sait que les squats maintenant sont de plus en plus souvent expulsés, même lors de la trêve hivernale. Donc qu'est-ce que cette date, ça change, le fait d'être en trêve hivernale?
Il faut savoir que la trêve hivernale, en fait, c'est plus pour les personnes qui ont un loyer et qui ne peuvent pas payer. Ça ne s'applique pas forcément aux squats, mais effectivement, il y a une compréhension un peu pour ça. Et donc, effectivement, plutôt que... Comme les personnes sont plus sensibles aux expulsions de famille quand il fait un peu frais, du coup, ils évitent de le faire pendant l'hiver. Mais en fait, il n'y a rien qui dit qu'un squat ne doit pas être géré en plein hiver. S'ils ont envie, ils le font. Surtout, ils ont durci les lois par rapport à tout ça. Et surtout, ils criminalisent les personnes qui ouvrent les lieux, ce qui est un acte de résistance, finalement, puisqu'il n'y a rien qui est fait pour que les personnes dites en situation précaire aient des solutions pour eux.
L'action donc qui a lieu demain à 12h30 place Péberlan, donc à l'initiative de Médecins du Monde, elle s'appelle La rue nuit gravement à la santé.
Tout à fait.
Cette question-là de la santé, peut-être tu peux en dire 2 mots et de comment la rue, tu le disais, vivre entre 0 et 5 degrés tout un hiver, en fait, ça a atteint.
Oui, bien sûr.
C'est quoi cette nuisance et cet impact de la rue sur la santé des gens?
C'est simple, on se nourrit mal, on n'est pas forcément bien si on n'a pas la force, on a froid là toute la nuit, il y a un manque d'aide de psychologique, même s'il y a des petites choses qui se font. C'est le travail des petites associations dont on parle pas, parce qu'on parle beaucoup de banque alimentaire ou Resto du Cœur. En fait, il y a plein de petites assos comme les Maraudes du Cœur, j'en cite quelques-unes comme ça à la volée, les Maraudes du Cœur, on a les gratuits, on a la piraterie, il y en a plusieurs, j'en oublie, excusez-moi les copains. Et du coup, que c'est un constat, oui, psychologiquement, bah oui, ça peut pas aller. Il y a des personnes seules, isolées, des femmes seules aussi, isolées, qui se retrouvent du coup confrontées au monde dur de la rue. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Il va falloir en prendre conscience. On le cache. C'est un peu comme cette histoire de SDF qui sont expulsés des JO par bus entier vers la province parce qu'on faut pas qu'on voit cette misère. Donc ça doit être dénoncé. Et qui va s'en préoccuper? C'est les petites assos qui sont à la rue, qui vont devoir absorber. Et on n'aide pas ces petits assos, pas assez. On les reconnaît pas assez. Et voilà. Donc je suis aussi pour la voix de ces gens, ces personnes-là. Donc oui, la rue nuit gravement à la santé. Il faut y être. Et il y a besoin de mobilisation. Il y a besoin que les personnes soient là. C'est une petite action pacifique et qui dure pas très longtemps, qui prend pas beaucoup de votre temps, mais il y a besoin que ce soit supporté en cette fin de trêve hivernale.
Très bien, merci beaucoup Rachid. Donc merci, le rendez-vous, on le redit, c'est demain, mercredi à 12h30.
27 mars à partir de 12h30, place Péberlan.
Place Péberlan. Merci beaucoup Rachid. Donc merci, je rappelle que toi tu es membre de président de l'association La Piraterie.
Tout à fait.
Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
Je le disais, on s'intéresse aujourd'hui, ce midi, à la Bourse du Travail de Bordeaux, située cours Aristide Briand, construite par la mairie de Bordeaux à partir de 1934. Elle a été inaugurée en 1938. Ce bâtiment, il symbolise jusqu'à aujourd'hui l'histoire ouvrière et syndicale, un haut lieu de la culture ouvrière. C'est ce que tu disais, Stéphane, dans les colonnes de Sud-Ouest la semaine dernière. C'est aussi un bâtiment à l'architecture remarquable, classé au monument historique depuis 1998, en particulier en raison des peintures et sculptures art déco qui s'y trouvent. Mais aujourd'hui, la Bourse du Travail, elle est menacée par des dégradations importantes qui ont rendu de nombreux espaces inutilisables et aussi par l'étiolement des activités qui ont pu s'y dérouler. L'Union départementale de la CGT, qui occupe le bâtiment, tire depuis quelques semaines la sonnette d'alarme. Stéphane Aubé, pour commencer, donc secrétaire général de l'Union départementale CGT de Gironde. On entend dans le reportage qu'il est question du hall de la Bourse, de la salle Ambroise Croizat, de la bibliothèque et de la salle de spectacle qui, elles, se trouvent tout en haut du bâtiment et qui sont toutes aujourd'hui inaccessibles, inutilisables. Est-ce que c'est pour ces quatre lieux-là que vous demandez des restaurations? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que, en gros, c'est ça la demande aujourd'hui en termes de travaux, de restauration, Stéphane Aubé?
Nous, notre demande est située d'abord sur une ambition politique, à savoir que cette Bourse du Travail redevienne un lieu d'émancipation, de culture et de moments de partage artistique. Et pour ce faire, la Bourse du Travail est un lieu magnifique, chargé d'histoire, un bijou art déco extrêmement rare. Je crois qu'il en reste deux à Bordeaux de cette envergure. Il y a le parc Lescure et il y a la Bourse du Travail.
Et puis c'est un espace formidable, enfin, en plein centre-ville, d'avoir tout cet espace-là, c'est...
C'était à l'époque la plus grande salle de spectacle dans Bordeaux, puisque la salle de spectacle qui s'appelle la salle Ambroise Croizat contenait 1200 places, et c'est toujours le cas. Et donc c'est sur ça qu'on essaye d'alerter. Aujourd'hui, on a une salle de spectacle qui est fermée, suite à des dégradations par manque d'entretien.
Et à la présence d'amiante.
Et avec une présence d'amiante dans les matériaux. Également, une grande salle, une ancienne bibliothèque, hein, également immense. Également un hall, un patio. Donc, des espaces formidables pour pouvoir accueillir le public et partager des moments d'éducation populaire, culturelle, artistique, tout ce qui l'intelligence, la volonté collective permettra d'organiser, comme ça a été le cas en temps où il y avait des spectacles, des pièces de théâtre, du cinéma. Il faut savoir qu'il y a aussi une ancienne salle de cinéma avec
une cabine de projection,
des anciens matériaux également classés de projection de cinéma. Non, c'est vraiment un magnifique lieu qui porte une histoire et une mémoire qu'il faut absolument connaître, découvrir, mais surtout réhabiliter.
Alors, je crois que nous avons été rejoints au téléphone par Delphine Jamet. C'est bien ça, vous êtes bien au bout du fil ?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée. Merci beaucoup de prendre un moment pour participer à cette discussion. On revient un moment sur la question quand même du site donc de cette Bourse du Travail et des travaux qui restent à faire. On parlait avec Stéphane Aubé de, voilà, des lieux, des pièces qui demandent travaux et de la réunion qu'il y avait hier entre la CGT et la mairie, lors de laquelle il y a eu un engagement de la mairie, en tout cas un discours qui montrait le fait de ramener cette question dans les priorités de la mairie. Vous rejoignez, vous confirmez cela, Delphine Jamais, et avec à la fois donc, ce qui nous a été dit par Stéphane Aubé, c'est un calendrier de l'échelonnement des travaux qui allait pouvoir être communiqué quand il sera fait, et cette question de la priorisation des travaux à la Bourse du Travail, Delphine Jamais.
Oui, en tout cas, sur la mise en sécurité de la Bourse du Travail, très clairement, tout ça est planifié. Hein, donc, les services sont en ordre de marche et lancent les marchés afférents. On sait que c'est complexe, c'est long et on en est les premiers désolés, mais c'est la loi de l'administration et des marchés publics qui le veut. En tout cas, bien entendu, il va y avoir un parapluie qui va être posé sur le toit pour protéger l'atrium et éviter que les stucs continuent à s'évacuer, et ce qui provoque après les inondations à l'intérieur de la bourse. Au PPI, nous avions mis la réflexion de la Salle-Antoine Croizat, pardon, Ambroise Croizat, et avec, sauf qu'on a, il y a eu de l'amiante, donc du coup le budget va passer dans le désamiantage dans un premier temps.
Donc le PPI, c'est le plan
le plan pluriannuel d'investissement, oui.
Très bien.
Donc, plan pluriannuel d'investissement qui représente à peu près 500 millions, 600 millions sur un mandat, hein, c'est un peu plus de 100 millions d'euros par an. Et donc la salle Ambroise Croizat va être désamiantée. Et dans le hall, il y a des risques aussi d'amiante, semble-t-il. Donc, on a ce sujet-là aussi complexe, hein, de mise en sécurité autour de ces sujets. Donc, c'est pas simple parce qu'en plus, c'est effectivement un lieu prestigieux sur lequel nous sommes particulièrement attachés, qui est classé. Et donc, ça ne peut pas se faire rapidement et on en est les premiers désolés.
Est-ce qu'on peut avoir quand même une petite idée du calendrier dans le journal Sud-Ouest? Je crois qu'il était question de 2 ans au moins de travaux pour la salle Ambroise Croizat. C'est toujours cet ordre-là de grandeur?
Tout à fait.
Stéphane Aubé, ouais, sur cette question-là, vous comprenez, j'imagine bien, cette question-là du temps nécessaire à conclure ces marchés, etc., pour que ça avance. Ça reste un signe positif pour vous?
Nous, la réunion de hier à l'initiative de la CGT, on l'entend et on l'analyse comme un pas positif. Un pas. Avec, encore une fois, une grosse attente de voir cette visibilité des travaux, voir comment également on peut raccourcir les délais administratifs, et la DRAC d'ailleurs a expliqué que dans le calendrier qui était envisagé, il y avait peut-être des délais qui avaient été identifiés comme étant relativement longs, et ces délais pourraient a priori être raccourcis, et également voir comment on pourrait d'ores et déjà travailler à l'après. Nous, ce qu'on a capté, ce qu'on a entendu hier, c'est un gros intérêt de la part de l'État à travers la DRAC, qui a bien identifié que ce patrimoine, ce bâtiment qui était classé bâtiment historique, avait un vrai intérêt patrimonial. Et également qu'il fallait être en capacité, au-delà de l'intérêt patrimonial, de le faire revivre et de le réhabiliter. Donc la mise en sécurité telle qu'elle est établie et envisagée par la mairie, c'est un premier pas positif, évidemment, qu'il va falloir accompagner par d'autres pas, et notamment pour partager un vrai projet culturel, un projet politique qui permet de travailler cette question d'émancipation à travers la culture, l'art, le savoir. Et nous, sur ce projet-là, qu'on veut absolument arriver à se mettre d'accord, et je pense qu'on partage ce projet, on peut partager ce projet.
Alors
pour pouvoir faire que demain, cette Bourse du Travail, au-delà d'être mise en sécurité, elle revive. Et donc ça demandera aussi à continuer à se rencontrer, le plus souvent possible pour qu'on puisse donner des perspectives d'ouverture, notamment au public.
Alors justement, dans les échanges là, qui ont lieu notamment avec la conférence de presse et avec les différents articles la semaine dernière, la CGT vous parlait de partager la partie culturelle de la Bourse du Travail avec tous les acteurs institutionnels du département, voire de la région. Et dans Sud-Ouest, Delphine Jamais, vous parlez de la question de mutualiser les locaux de la Bourse. Est-ce que, à travers ces deux idées-là, vous êtes sur le même, les mêmes choses précises? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces différents éléments-là? Peut-être Delphine Jamais, d'abord, quand vous avancez cette question de la mutualisation, est-ce que c'est cette partie culturelle d'ouverture, d'animation au public, ou est-ce que vous envisagez d'autres, vous imaginez d'autres choses?
Mais pour l'instant, tout est imaginable, en fait. C'est ce que je pense qu'il faut. Il ne faut pas se fermer à d'autres choses. Et ça peut, c'est pas forcément que de la culture. Ça peut être des colloques, ça peut être plein de choses qui ne sont pas culturelles, puisqu'effectivement, il y a des lieux. Il y a l'amphithéâtre, il y a la salle des congrès, vous avez la bibliothèque en haut, vous avez énormément d'espace dans cette Bourse du Travail qui pourrait être exploitable et pas forcément culturel. Donc c'est là, je pense que tout doit être mis sur la table à un moment donné, et c'est bien ce qu'on cherche à faire. Et très clairement, dans le cadre du prochain PPI de la ville de Bordeaux, hein, c'est tous les 6 ans que ça se fait, et au fur et à mesure, on a des critères pour dire ce qui va rentrer dans le PPI. Et aujourd'hui, la ville de Bordeaux a pratiquement plus de 500 bâtiments du patrimoine en mauvais état. Je tiens à le rappeler, c'est pas que la Bourse du Travail, c'est l'ensemble du patrimoine de la ville qui est en mauvais état. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on priorise ce qu'on doit faire. Donc pour ça, effectivement, il faut faire des programmes, de la programmation. Et dans le cadre de cette programmation, il y a des études à mener avec les occupants actuels et qui resteront occupants, bien entendu. Et derrière, les possibilités, et en fonction de ça, le programme de travaux se fait, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une vraie enveloppe pour savoir ce qu'on va y faire dedans. Typiquement, un exemple, la salle Ambroise Croizat, elle pourra coûter entre 2 millions ou 10 millions en fonction de ce qu'on met comme sono, par exemple. Donc c'est pas la même chose. Donc est-ce que c'est une salle des fêtes qu'on en fait, ou une vraie salle de spectacle? Voilà, donc tout ça, il faut le définir, sauf que la ville n'a pas des finances extensibles, si je peux me permettre, où nous avons besoin de lieux culturels, notamment dans d'autres secteur de la ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez la Bastide, vous avez Euratlantique, vous avez des quartiers entiers qui sont en train de se construire avec peu de services publics et où on a besoin d'amener du service public. Donc du coup, nous on doit prioriser tout cela en fonction des besoins de la ville, et donc c'est là que c'est ce qui va être discuté ensuite là, bien entendu, parce que quand on fait une étude de programmation, tous les occupants et toutes les parties prenantes sont interrogés pour voir ce qu'on peut faire. Donc ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir le poser.
Je vais demander à Stéphane Aubé ce qu'ils imaginent à la CGT, mais d'abord, Delphine Jamais, vous parlez de critères. Bon, je comprends que vous ne vous engagiez pas sur des éléments, mais on comprend aussi que ça peut faire peur quand vous dites tout est sur la table, tout est possible. J'imagine que ça puisse faire peur à Stéphane Aubé. Delphine Jamais, comment est-ce qu'on peut préciser un peu c'est quoi ces critères dont vous parlez et qu'est-ce qui pourrait être imaginable?
Non, mais quand je dis que tout est possible, c'est bien entendu. Enfin, il y a une chose qui est incontournable, c'est ce qu'on essaye par exemple de faire à Fiefé. À Fiefé, on a l'ASTI qui est, on a la mission locale. On refait un projet autour de Fiefé avec, en incontournable, le positionnement de l'ASTI et de la mission locale. Donc, ce qui va être à l'intérieur sera forcément en adéquation avec les projets de l'ASTI et de la mission locale. Là, c'est exactement la même chose. Et en plus, dans cet endroit encore plus symbolique, etc. Donc, on a la CGT qui est dans ses locaux. Et donc, on fera un projet avec la CGT, mais aussi avec ce que veut la ville. Et pour l'instant, ce que veut la ville, on ne l'a pas prédéfini, en fait, si vous voulez. C'est des discussions que nous devons avoir. Donc, quand je dis que tout est possible, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une partie culturelle, mais il pourrait y avoir aussi centre des congrès. C'est un centre des congrès, donc avec je dis des idées comme ça, hein, c'est pas ce qui est arrêté. Mais voilà, il peut y avoir d'autres personnes qui viennent, ça sera une animation forcément qui sera gérée différemment en fait.
Tout en restant, j'imagine, dans la thématique, on ne va pas faire un congrès du MEDEF à la Bourse du Travail.
Non, bien entendu.
Stéphane Aubé,
pour raison gardée.
Stéphane Aubé, qu'est-ce que vous, en fait, à la CGT, vous imaginez quand vous avez parlé de cette ouverture, de cette vie culturelle? Qu'est-ce que vous voyez derrière? Je signale juste qu'il va être 13h et qu'on déborde un petit peu, comme on a la chance de vous avoir, pour continuer ce débat. Stéphane Aubé.
Oui, alors, façon très, très rapide, nous, on distingue bien la partie des syndicats et la partie des congrès de la Bourse du Travail. Et on a une convention qui a été signée en 2013 qui acte bien quelle est la vision de la CGT. Nous, on a des principes. On ne veut pas que la Bourse du Travail devienne notamment un lieu politique, de partis politiques qui viendraient organiser leur congrès, par exemple, ou des réunions. Donc, la Bourse du Travail, ça reste un lieu du syndicalisme, un lieu social, un lieu pour porter notamment des événements culturels et artistiques.
C'est la charte d'Amiens qui définit le syndicalisme et différence entre combat politique et syndical.
À la charte d'Amiens, pourquoi pas. Nous, on a bien identifié et on affirme ces éléments-là parce que on est extrêmement ouvert et c'est en ce sens qu'on veut engager des discussions régulières avec la mairie, c'est qu'on lit évidemment la perspective d'ouverture de la partie publique, à savoir la maison des congrès avec la salle ambroisade du spectacle, avec l'atrium, avec l'ancienne salle des congrès, des syndicats, l'ancienne bibliothèque, etc., comme étant des moments, en tout cas des lieux qui permettraient de faire partager des moments avec le public autour d'événements, autour du savoir, de partage universitaire, culturel, cinématographique, peu importe. L'autre partie, par contre, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut qu'on reprécise avec la mairie. L'union départementale CGT est affectataire exclusif. Et donc là, sur ce principe-là, il y a des choses qui ont été écrites, il y a des jugements de tribunaux qui figent les choses. Et dire que l'union départementale est affectataire exclusif ne veut pas dire qu'on est le seul à l'intérieur. Encore une fois, il y a bien d'organisations syndicales de la CGT, qui appartiennent à la CGT, que ce soit la CGT du commerce, la CGT de la santé, la CGT de la météorologie, la CGT des postiers, la CGT de la papeterie, mais également des organisations ici de la CGT, Indecosa, l'IHS, également des associations comme les Fusiliers Souches.
Également d'autres syndicats, puisqu'il y a la FSU notamment qui aurait de chaussée,
il y a également la FSU qui est logée.
Pourquoi vouloir garder cette centralité de la CGT, alors même si la CGT reste un syndicat important et principal même à bien des égards, pourquoi est-ce que la FSU n'aurait pas son mot à dire aussi en tant que, je ne sais pas ce que ça veut dire moi, affectataire, mais pourquoi seule l'UD-CGT devrait rester affectataire?
C'est historique et c'est une décision de justice et ça fait partie de notre histoire. La maison des syndicats appartient à la fédération de l'Union départementale de la CGT pour justement faire que le syndicalisme qui est reconnu par la Constitution, qui est une activité essentielle à la démocratie, puisse vivre avec des locaux, des moyens. Vouloir en faire autre chose, c'est ne pas regarder notre histoire syndicale, c'est ne pas regarder notre histoire sociale. Et c'est en ça que peut-être on aurait besoin de nouveau de se rencontrer avec la mairie pour qu'on reprécise les choses et qu'on arrive à se comprendre.
Mais il y a aussi d'autres syndicats qui, par exemple, aujourd'hui à Bordeaux, n'ont pas de locaux mis à disposition par la mairie et qui pourraient avoir envie aussi de cet espace-là. Je ne sais pas si cette question fait partie aussi de celles qui seront discutées, Delphine Jamais, sur la place de la CGT et ou d'autres syndicats qui pourraient aussi avoir leur place dans cette maison, dans cette bourse.
Après, moi, je ne veux rien imposer à la CGT, hein, que les choses soient très claires. Donc là, c'est des discussions qu'on doit avoir. Et oui, il y a des syndicats qui cherchent encore des locaux. Donc nous, on n'a pas un patrimoine extensible. Donc aujourd'hui, on a un manque de locaux criard, mais aussi pour des associations. Quand vous avez l'ASTI au début de mandat qui cherche des locaux, on a essayé d'y répondre au mieux et on leur en a trouvé. Mais franchement, c'était une aubaine pour nous d'avoir fiefé à ce moment-là. Après, on a des besoins en locaux qui sont incommensurables pour plein d'autres associations qui travaillent dans l'œuvre sociale, notamment. Et effectivement, c'est des discussions qu'on doit avoir avec la CGT pour voir si c'est des locaux qui sont partageables. On n'est plus en 1950, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville doit se faire en mutualisant. On est dans du zéro artificialisation nette, on est dans une pénurie de locaux. et où les locaux sont chers. Donc, il faut absolument qu'on arrive à mutualiser. Donc, c'est juste de la bonne entente. C'est-à-dire que, bien entendu, la CGT y restera toujours, la CGT aura toujours ses bureaux, etc. Mais ce qui n'est pas occupé ou sous-occupé, comment on le mutualise? Et je sais que la CGT le fait déjà, mais parfois, quand il y a des propositions de la mairie sur une mutualisation possible, quand on envoie des courriers sur ce genre de choses, c'est pas pour imposer, c'est pour proposer et essayer de faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde, pour le bien commun, en fait. Le but, c'est l'intérêt général, moi, me semble-t-il. Et je pense que la CGT a le même intérêt général que nous, cheville au corps. Donc, c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut qu'on discute. Donc, on va discuter, il n'y a pas de sujet avec ça, hein, ça va se faire. Après, voilà, la temporalité des choses est longue et c'est comme ça.
Évidemment, mais voilà, c'est effectivement aussi parce que ce bâtiment de la Bourse du Travail est un lieu emblématique et un lieu important aussi pour les mouvements sociaux, les mouvements de travailleurs et travailleuses, qu'on en parle aujourd'hui. Peut-être une dernière question, Delphine Jamet, sur cette question justement du dialogue. On a cru comprendre que les relations entre vous et la CGT n'étaient pas géniales, la CGT disant même que parfois c'était un peu mieux sous Juppé, que c'était compliqué d'avoir des réponses toujours aux questions. Est-ce que sur cette question-là de mésentente, de problème de communication, les choses sont résolues? On va repartir sur des bonnes bases maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent parce que, je ne sais pas, il y a des peurs? Comment vous voyez cette question, Delphine Jamet?
Moi, je vais vous dire, genre, je vais être très honnête, en fait. Moi, j'avais pas de problème, en fait. Vraiment, j'avais pas de souci. Sauf que quand, fin novembre, début décembre, quand vous avez un adjoint qui est en train de mourir et que vous êtes harcelé de mails, harcelé, où on vous parle de mépris de classe, que derrière, on vous convoque sans regarder votre agenda, sans prendre le téléphone pour demander si vous êtes disponible, mais moi, je trouve que c'est des façons de faire qui ne sont pas très adéquates. Et effectivement, je suis humaine, et moi, je vais le dire très clairement, je suis un être humain, et j'ai le droit de passer des moments difficiles aussi. Et à un moment donné, ça serait intéressant quand même qu'il y ait un téléphone qui se prenne, et pas forcément que ça soit l'adjointe au maire qui téléphone, mais que ça soit dans l'autre sens, et qu'on puisse discuter à l'oral. Et si vous voulez, là, moi, ça a été particulièrement difficile comme période à vivre. Et oui, j'ai fait aucune réponse, parce que c'était une période très difficile à vivre pour moi. Et donc, moi, je veux... C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de le dire. C'est que, effectivement, le statut de l'élu, on n'est pas des travailleurs comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas de statut. Donc, un, on est sous-payé. Deux, on travaille, on ne compte pas nos heures. Et derrière, on se fait harceler par coup de mail ou par voie de presse. Et ça, franchement... Moi, c'est la première des choses, c'est vraiment contre-productif, je pense. Et là, vous voyez, normalement, ce matin, j'avais un CA du CCAS. Donc, je vous avais dit, ça va être difficile pour moi. Finalement, je suis allée à un enterrement, vous voyez. Donc là, je sors d'un enterrement pour prendre cette interview. On est des humains et je pense que c'est important de le prendre en considération aussi parce qu'on est des travailleurs. Ben, franchement, moi, je pense que je travaille beaucoup et ça serait bien aussi de prendre en considération ça parce que le burn-out, c'est pas que tous les autres travailleurs, hein, les élus, ils ont le droit aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait un peu nous prendre un peu en considération aussi et de considérer qu'on est des humains et c'est pas pour ça que politiquement, on porte pas ces sujets et qu'ils nous tiennent pas à cœur. Donc, de dire qu'il y a du mépris de classe, c'est juste insultant. Je le dis vraiment, moi, tous les mails que j'ai reçus avec le mépris de classe, je trouve ça insultant. C'est ne pas nous connaître, c'est pas savoir qui on est. Derrière, vous avez des humains et je pense que c'est à prendre en considération.
Merci Delphine Jamet. Réponse de Stéphane Aubé.
Alors qu'un agenda d'un élu soit compliqué et chargé, je vous renvoie également à l'agenda des militants syndicaux qui sont également extrêmement chargés. Nous non plus ne comptons pas nos heures, nous non plus ne comptons pas notre énergie, mais peu importe, c'est pas de ça dont il s'agit. Évidemment, quand nous sollicitons, nous envoyons des mails et qu'on n'a pas de réponse, et non, il peut y avoir certaines interrogations derrière le silence. Que maintenant ce silence cesse et que de nouveau on puisse rediscuter, échanger, et oui, il faut échanger régulièrement. Quand nous on propose des réunions, si la date ne convient pas, il faut nous le dire. Mais sans réponse, comment savoir si c'est le cadre, l'objet de la réunion ou la date qui coince? Nous, on est prêts à entendre que ce soit des problèmes d'agenda. Et là, si notre ton peut monter, il faut être aussi en capacité de savoir que derrière, on n'a pas d'intention belliqueuse, mais une détermination qui sera sans faille concernant notamment la Bourse du Travail.
Très bien, bon, ben merci à vous deux. On espère que le débat aurait été constructif et permettra d'avancer sur ce sujet de la Bourse du Travail qui nous tient à cœur aussi à la Clé des Ondes parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un lieu important et symbolique à Bordeaux et qu'on aimerait bien aussi, nous, y faire des émissions de radio de temps en temps pour rassembler justement tous ces acteurs, actrices et syndicats de Bordeaux et de Gironde. Merci beaucoup, Stéphane Aubé, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Gironde, et Delphine Jamet, adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée. Et on pourra vous réinviter d'ailleurs pour parler du patrimoine immobilier de la mairie et de tous les autres lieux de Bordeaux et de leur avenir. Merci beaucoup à vous deux.
Merci. Au revoir.